tout de suite, c'est le premier journal de la journée avec vous, Antoine Denecher, bonjour.
Bonjour. Et on reparle de la réforme des institutions de l'islam de France. C'est le recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubekeur, qui relance une nouvelle fois ce débat après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray mardi. Mais pourquoi faire ? Élément de réponse avec Maxime Fayolle.
Pendant ce temps, à Calais, les conditions de vie dans la jungle n'ont pas changé. Plusieurs réfugiés sont morts ces derniers jours sur la rocade de Calais. Cette route très dangereuse représente pour eux le dernier petit espoir de passage en Angleterre, nous dira dans votre journal Thomas Schoner.
Enfin, le Cachemire, disputé par l'Inde et le Pakistan depuis bientôt 70 ans, est secoué de nouveau par des tensions depuis le début du mois de juillet. Explication d'Antoine Guinard dans ce journal. Clinton, quel mot contre les mots de l'Amérique au programme des matins, Olivia Gesbert.
Oui, il arrive dans le texte. Le discours d'investiture de la candidature démocrate est attendu ce soir en clôture de la convention à Philadelphie. She's the real one, a martelé hier son mari Bill. Quel mot trouvera-t-elle pour assurer l'Amérique et convaincre de sa stature présidentielle, l'historien Thomas Snegaroff est notamment notre invité.
En France, deux jours après l'assassinat d'un prêtre dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, les enquêteurs pourraient donc avoir identifié le second tueur, un jeune de 19 ans, né et vivant en France, fiché S. C'est lui qui figurerait aux côtés de l'autre tueur, Adel Kermiche, dans une vidéo d'allégeance diffusée hier soir par l'organisation État islamique. Les enquêteurs attendent en fait les résultats des tests ADN sur le corps du second terroriste tué mardi pour en avoir la certitude. Ça, c'est pour l'enquête. Mais cette attaque soulève toujours ce matin des questions politiques, sociétales ou religieuses. Au sein de l'islam de France, par exemple, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a relancé un débat récurrent en appelant hier à une grande réforme des institutions musulmanes, Maxime Fayolle.
Réformer l'islam, oui, mais faut-il encore savoir pourquoi, estime Amar Lasfar, le président de l'Union des organisations islamiques de France. Pour lui, former des imams, comme le propose Dalil Boubekeur, est une chose qui se fait depuis longtemps.
Former les imams, ça ne répond pas au terrorisme. Les terroristes ne sont pas des imams. Ils ne viennent pas consommer notre discours, ils ne viennent pas dans nos mosquées. Même si on forme nos imams, même si on réforme nos institutions, les terroristes resteront toujours des terroristes. Mobilisons toutes les énergies, y compris notamment cette communauté musulmane. Parce que le fait de parler aujourd'hui de la formation des imams, des mosquées, des structures musulmanes, eh ben le français moyen que je suis, il va dire « mais tiens, l'ennemi, il est là ».
Ce qu'il faut, c'est donner plus de représentativité dans l'islam de France, explique le directeur du collectif contre l'islamophobie, Marwan Mohamed, et ne pas chercher à mettre l'islam sous contrôle de l'État.
C'est exactement ce qu'essaie de faire une certaine droite aujourd'hui en France, mettre les musulmans sous contrôle permanent. Comme si, de manière inhérente à l'islam et aux musulmans, il y avait un facteur de risque, il y avait une menace permanente en leur sein. Et ça, c'est problématique en soi.
Il dénonce les discours politiques qui conduisent, selon lui, à l'augmentation des actes islamophobes, des actes qui sont pourtant moins nombreux aujourd'hui qu'après Charlie Hebdo, le 13 novembre.
Comme si, au bout du compte, le fait que parmi les victimes, notamment à Nice, il y a eu 30% de musulmans, ça faisait que les gens vivent ensemble et ne se montrent pas les uns contre les autres au niveau du terrain. Les gens nous montrent l'exemple. Les communautés, notamment à Saint-Étienne-du-Rouvray, travaillent main dans la main depuis plus d'une génération maintenant. Et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'affichage politique. C'est une réalité sociale sur le terrain.
Marwan Mohamed estime qu'il faut maintenant s'inspirer de ce qui fonctionne au plan local pour l'appliquer aux institutions de l'islam au plan national.
Merci Maxime Fayolle. 4 migrants sont morts ces deux dernières semaines à Calais. Les associations humanitaires alertent une fois de plus sur les conditions de vie des réfugiés dans la jungle. Dernier exemple, dans la nuit de mardi à mercredi, un Soudanais de 28 ans a été retrouvé mort sur la rocade de Calais. La sécurité ayant été renforcée dans le port et à l'entrée du tunnel sous la Manche, c'est via cette route désormais que les migrants espèrent gagner l'Angleterre en se cachant dans les camions, mais évidemment au péril de leur vie, Thomas Schoner.
Depuis le début de l'année, 7 réfugiés sont morts sur la rocade portuaire de Calais, un axe pris d'assaut presque toutes les nuits. Les migrants y installent des barrages pour ralentir les poids lourds qui se rendent en Angleterre. Sur place, les forces de l'ordre sont souvent dépassées, comme l'explique Gilles Debauve du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.
Il y a 22 kilomètres, 4 patrouilles qui essaient de gérer. Donc forcément, il y a des barrages qui sont mis un peu partout. Et nous, on arrive toujours a posteriori. Certains, on arrive en flagrant délit, donc on peut rapidement procéder à l'éviction des migrants. Mais il y a certains moments où les migrants, eux, sont directement sur la rocade. Les routiers, eux, connaissent les points de passage et ce qu'ils veulent, eux, c'est très rapidement se dépêcher d'arriver sur port de Calais. Donc la limitation de vitesse ils s'en foutent.
Pour les associations humanitaires, c'est l'État qui est responsable de cette situation. Amine Trouvé-Bagdouche est chef de mission à Calais pour Médecins du Monde.
Les réfugiés aujourd'hui, étant donné qu'on ne leur offre pas vraiment une hospitalité digne de ce nom, sont prêts à tout pour se sauver de l'endroit où ils se trouvent, à savoir la dite jungle de Calais. On pourrait, c'est une volonté politique, mettre en œuvre sur un temps donné des camps aux normes internationales. Il y a un espace minimal pour des personnes, etc. On ne laisse pas s'installer des gens dans du terrain vague où ensuite on les expulse du jour au lendemain quand ils deviennent trop gênants médiatiquement.
Un camp aux normes internationales a été installé en mars dernier à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Mais le site est promis à une fermeture progressive.
Explication de Thomas Schoener pour France Culture. Selon le journal Le Monde, la direction de SFR vient d'annoncer son intention de baisser ses effectifs d'un tiers. L'opérateur télécom devrait passer de 14 300 salariés à 9 000 au second semestre 2017. Conséquence du rachat de SFR par Patrick Drahi, le patron de la société Altice. C'était en 2014, Jean-Marc Chardon.
La chasse aux effectifs, elle est dans l'air depuis quelques temps. Pour l'acquéreur de SFR, c'est la logique du marché qui s'impose, féroce. Le processus de digitalisation de ses contacts clients s'est traduit par une réduction du volume d'appels, et pas minime, de quelques 30% en 2 ans. L'an dernier, SFR aurait perdu près d'1 million de clients. La faute au numérique dans un environnement qui change rapidement et où le démarchage téléphonique est de plus en plus réglementé. A-t-on besoin d'autant de personnes sur un marché en décroissance? Non, aux yeux des dirigeants de SFR qui disent perdre de l'argent et qui pointent du doigt la stratégie de concurrents qui, tel Bouygues Télécom, a pu lancer un plan social et Orange qui a réduit ses effectifs. C'est dans cet environnement que le groupe a débuté la réorganisation de ses filiales de distribution, chargée de vendre des forfaits dans les boutiques et de faire des offres aux entreprises. Une réorganisation qui se solde par un plan de départ sur un calendrier compressé, même s'il se défend de toute entorse à ses engagements relatifs à l'emploi. Patrick Drahi presse le mouvement.
Merci Jean-Marc Chardon. En Inde, dans la province du Cachemire, Internet et le téléphone sont coupés par les autorités depuis 3 semaines, même si depuis hier, normalement, les communications via les téléphones mobiles sont rétablies. Cette mesure a été prise suite à un nouvel épisode de tension au Cachemire, Antoine Guinard.
Les Cachemiris peuvent de nouveau se servir de leur portable pour communiquer, même si de nombreux numéros restaient encore injoignables mercredi. Selon un porte-parole de l'administration régionale, l'interruption des services de téléphonie mobile et d'Internet avait pour but d'empêcher, je cite, « les éléments antisociaux de répandre des rumeurs ». Le Cachemire indien a connu une des pires vagues de violence depuis 2010 et 3 dernières semaines, la mort de Burhan Wani, un jeune militant séparatiste devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance dans cette région à majorité musulmane, a déclenché de nombreuses manifestations à travers l'État. En tout, une 50aine de civils ont été tués dans des heurts avec les forces de sécurité. L'interruption des télécommunications est un phénomène tristement récurrent au Cachemire lorsque la situation dégénère. Après les manifestations de 2008, lorsque plus de 500 000 personnes étaient descendues dans les rues, les SMS avaient été interdits pendant plus de 2 ans dans la région. À l'heure qu'il est, Internet est toujours inaccessible sur les portables, seules les connexions fixes, rarissimes dans la région, permettent d'y avoir accès. Disputé par l'Inde et le Pakistan depuis 1947, le Cachemire a été le théâtre d'une rébellion séparatiste en 1989. L'armée indienne, qui compte aujourd'hui plus d'un demi-million de soldats dans la région, est largement perçue comme une force d'occupation par la population locale. Et l'impunité avec laquelle continuent d'agir les forces de sécurité indiennes a poussé une nouvelle génération, celle de Burhan Wani, à prendre à nouveau les armes.
Une correspondance d'Antoine Guinard en Inde pour France Culture. La météo en France, des ondées orageuses et des nuages sur la moitié nord, du soleil au sud. Ce matin, température de 13 à 17 degrés, même jusqu'à 22 près de la Méditerranée.